ce qui nous réunit, c'est manifestement un sentiment d'insatisfaction sur l'état actuel des sciences sociales ou de la science sociale, le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de pourri peut-être, mais c'est le mot peut-être un petit peu fort. Ce qui ne va pas, c'est tout d'abord, je crois que nous partageons tous cette idée, c'est tout d'abord un état de fragmentation vertigineux entre les différentes sciences sociales, et je dirais particulièrement en France, très, très probablement, un renforcement des chauvinismes disciplinaires, voire des racismes disciplinaires, on en parlait encore aujourd'hui, chaque discipline méprisant, ignorant toutes les autres, et ce n'est même plus un racisme disciplinaire, c'est un racisme sous-disciplinaire et sous-sous-disciplinaire, etc., etc. Donc nous assistons à une fragmentation toujours croissante de ces sciences sociales qui rend de plus en plus difficile de penser le monde actuel, non seulement de le penser factuellement, mais de penser son avenir souhaitable et donc d'agir politiquement, d'être efficace dans l'action. En même temps, ce sentiment de ce constat de la fragmentation est un petit peu trompeur, car par-delà la fragmentation, et la même chose est vraie dans le monde réel qui est de plus en plus fragmenté, par-delà cette fragmentation, il y a quand même une grande unité de la science sociale et du monde actuel. La grande unité de la science sociale, c'est celle que produit l'hégémonie de ce qu'on peut appeler le modèle économique, ou une vision utilitariste du monde, comme on voudra, ou la généralisation d'une pensée de la théorie des choix rationnels, rational choice, ou la rational action theory. De même que dans le monde réel, ben, l'unité du monde, c'est l'unité du capitalisme financier et spéculatif, rentier et spéculatif, qui se soumet absolument tout. D'où notre double question, comment retrouver une certaine forme d'unité de la science sociale qui nous permette de penser le monde actuel? Et est-ce que c'est possible? Et deuxièmement, à partir de quoi? Sur quelle base? À partir de quel ensemble de concepts, de notions, soit de notions métathéoriques, soit de notions théoriques? Voilà, on pourra discuter de ces différents niveaux de réflexion. Pour ma part, avec mes amis du MOS, je pense que une des principales ressources pour refonder la science sociale sur des bases non économicistes ou non utilitaristes, comme on voudra, une des principales ressources, c'est le travail de Marcel Mauss, spécialement L'essai sur le don, mais aussi d'autres choses de Marcel Mauss, mais plus particulièrement L'essai sur le don. Pourquoi? D'abord parce que le don, comme le dit Marcel Mauss, c'est un phénomène social total, autrement dit, il comprend un grand nombre de dimensions de l'action sociale qu'il réunit. Et pour le dire autrement, il me semble que le don, c'est précisément, ou la pensée du don, le constat de la puissance du don, c'est précisément ce qui manque à quasiment l'ensemble des grandes doctrines de la science sociale pour accéder à une pleine intelligibilité. C'est ce qui manque au marxisme, c'est ce qui manque en partie à Weber, c'est ce qui manque en partie à Durkheim, c'est ce qui manque bien sûr aux économistes, etc. Bien. Alors, qu'est-ce que ce don que nous permet de penser Marcel Mauss, qu'est-ce qu'on peut tirer de la découverte de Marcel Mauss? C'est ce que j'essaierai de présenter très brièvement dans un premier temps, pour dans un deuxième temps de conclusion, dire que bien sûr, cette pensée du don n'est pas exclusive de tout un ensemble d'autres pensées, ce n'est pas une pensée hégémonique, ce n'est pas un dogme à substituer à d'autres dogmes. Paradigme du don, comment le penser? Il y a d'une part l'ensemble des découvertes qu'a fait Marcel Mauss, mais le problème de Mauss, c'est qu'il fait des découvertes sans le dire. Il ne dit jamais ce qu'il a découvert véritablement. Il découvre simplement, il expose. Mais il n'est jamais à un niveau méta. Donc il faut, cette découverte de Mauss, il faut premièrement l'expliciter et la développer dans le cadre de ce que je pourrais appeler le paradigme du don simple. Le paradigme du don simple, c'est l'ensemble des découvertes de Mauss explicitées, complétées. Mais cela ne suffit pas pour fonder une science sociale, pour trouver des fondements généralisables à la science sociale. Il faut aller aussi au-delà de la découverte de Marcel Mauss et amorcer ce que j'appellerais un paradigme du don développé, non seulement explicité et complété, mais développé ou élargi, si vous préférez. Et puis, il faudra encore aller à un troisième niveau en direction d'un paradigme du don général, comme il y a une théorie de la relativité générale, si on veut vraiment se donner l'ensemble des moyens de dialoguer avec toutes les autres approches théoriques possibles que je nommerai dans un deuxième temps. paradigme du don restreint. Qu'a découvert Marcel Mauss? Je ne vais pas le résumer ici, on n'a pas le temps, mais je mets simplement des étiquettes, trois choses. Première chose, il découvre que le don, ce n'est pas la charité, c'est un opérateur politique. Le don, c'est l'opérateur politique par excellence. C'est ce qui transforme les ennemis en alliés, réciproquement et symétriquement, mais il faudrait développer, c'est ce qui permet de passer de la mort ou du néant à la vie et à la fécondité. Donc, le don est un opérateur politique, et je dirais inversement, on pourra en discuter, et inversement, le politique est de l'ordre du don. Deuxième découverte de Marcel Mauss, une théorie de l'action. Une théorie de l'action qui nous permet de dépasser l'utilitarisme. Les sujets sociaux ne sont pas mus uniquement par leur intérêt personnel, parce que j'appelle l'intérêt pour soi, ils sont agités également par ce qu'on peut appeler l'intérêt pour autrui. Deuxième motif, deuxième mobile, et puis ils sont mus également, donc une première dialectique intérêt pour soi, intérêt pour autrui, et puis ils sont mus également par une dialectique de l'obligation et de la liberté. Troisième volet de la découverte de Mauss, le don est un universel toujours différent à lui-même, c'est un universel qui est historique, qui change en permanence au cours de l'histoire. Cela nous permet de penser toute l'histoire des religions, qu'il faut concevoir comme des transformations de la matrice originale du don, transformation historique de la matrice originale du don. Et puis, ça nous permet aussi de penser la modernité comme forme de coexistence entre des formes traditionnelles de socialité, de rapport social, ce que j'appelle la socialité primaire, les rapports de face à face, de personne à personne, la socialité secondaire, des relations entre des fonctions, et puis probablement aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'un troisième type de rapport social que je propose d'appeler la socialité tertiaire qui se met en place à travers Internet, à travers ces relations virtuelles. On est à tout moment en présence ou pas en présence, etc. Bien, je n'en dis pas plus. Ce qui caractérise l'ensemble de ces analyses de Marcel Mauss, c'est qu'elles reposent sur une vision de ce qu'on pourrait appeler la réciprocité simple. Les dons doivent être rendus. S'ils ne sont pas rendus, alors il y a domination, déséquilibre, troubles sociaux, etc. Réciprocité simple. Ce modèle est déjà extrêmement puissant, il permet de penser beaucoup de choses, mais il faut quand même, je pense, le préciser sur au moins deux points. Premièrement, et là encore, bien sûr, je donne simplement des têtes de chapitre. Premièrement, il faut compléter ce qu'on pourrait appeler le triptyque de Mauss. Mauss, vous le savez, parle de la triple obligation de donner, recevoir et rendre qu'il place à la base du rapport social archaïque, ou général, ou universel. Donc il faut, je crois, compléter ce triptyque obligation de donner, recevoir, rendre en introduisant un quatrième temps qui n'est pas tout à fait homogène aux trois premiers, qui est le temps de la demande. Temps de la demande, car s'il n'y a aucune demande face au don, si le don ne satisfait aucun besoin, aucun désir, aucune fonctionnalité, à ce moment-là, il n'a strictement aucun sens. Bien. Donc, ce cycle du donner, recevoir, rendre est toujours animé par la demande, soit exprimée par l'autre, soit anticipée par celui qui donne, etc. Et puis, symétriquement, il faut bien comprendre que le don, opérateur de paix, qui fait basculer de la guerre à la paix, ou réciproquement, ne prend sens que sur fond de son opposé, du cycle opposé, dans lequel il peut à tout moment basculer, ou dont il procède. Le cycle opposé, le contraire de la demande, c'est ignorer. Je ne vous demande rien, je vous ignore, je ne vous connais pas. Le contraire de donner, c'est prendre. Le contraire de recevoir, c'est refuser, je ne veux rien de vous. Et le contraire de rendre, c'est garder. Donc on a deux cycles entrecroisés, un cycle qu'on pourrait dire symbolique, demander, donner, recevoir, rendre, symbolique ce qui unit, et un cycle diabolique, ce qui sépare, ignorer, prendre, refuser, garder. Voilà, premier complément, premier développement du paradigme restreint de Marcel Mauss. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut expliciter ce qui est au cœur de l'essai sur le don, ce qui est présent mais qui n'est pas nommé comme tel. Il faut préciser que cet échange de dons, appelons-le comme ça, est un opérateur de la reconnaissance. Est un opérateur de reconnaissance en un double sens. Premièrement, il permet de procéder, je me tourne vers Marcel Hénard, bien sûr, il permet de procéder à la reconnaissance de l'autre dans son altérité et sa similitude. Et deuxièmement, il permet d'assurer la reconnaissance de celui qui donne. Et là, on a un lien important avec les théories actuelles de la reconnaissance, notamment avec celle d'Axel Honneth. Mais il faut simplement préciser les thèses de Honneth ou les thèses post-hegeliennes. Oui, les sujets humains sont en lutte pour la reconnaissance ou en quête de reconnaissance, mais qu'est-ce que ça veut dire, chercher une reconnaissance? Qu'est-ce que l'on veut voir reconnu? Il me semble que l'on veut voir reconnu sa valeur de sujet humain et de sujet social. Les économistes, je tourne vers Robert Boyer, les économistes cherchent à penser la valeur des biens. La reconnaissance est un déterminant de la valeur des personnes, de la valeur des sujets sociaux. On veut être reconnu en tant que donateur ou en tant que participant de ce que j'appelle la donation, je vais préciser ce mot tout de suite, en tant que participant d'un domaine, du domaine de la grâce, du domaine de la gratuité, du domaine de la vie à l'état pur. Voilà qui, si on veut préciser ce point, voilà qui va nous conduire à non seulement expliciter les découvertes de Marcel Mauss, comme je viens de le faire, ou les compléter, mais à les développer. Donc, deuxième stade, il faut tenter de penser un paradigme du don développé, au-delà du paradigme du don restreint. Ce paradigme du don restreint, je le disais, il repose sur l'idée d'une réciprocité simple. Or, il y a tout un ensemble de relations sociales dans lesquelles on ne peut pas s'attendre à une réciprocité simple. On ne peut pas s'attendre à ce que celui à qui l'on a donné vous rende quelque chose d'équivalent, même plus tard. Et cela est particulièrement important, comme le montrait le sociologue Alvin Goldner, dans toutes les relations où le statut des personnes est asymétrique entre les parents et les enfants, dans les relations vis-à-vis des personnes malades, vis-à-vis des personnes handicapées, vis-à-vis des mourants, etc. Dans tous ces cas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un retour équivalent. C'est cette situation asymétrique qu'essaie de penser toutes les théories actuelles du « care ». Bien sûr, dans toutes ces théories, il ne peut pas y avoir de retour équivalent. Comment penser ces relations de « care » si on ne veut pas basculer dans deux tentatives ou deux tentations opposées qui me paraissent potentiellement infructueuses? Première tentation, penser le care dans le domaine dans le registre de la charité asymétrique. Il y a des gens qui donnent et d'autres qui reçoivent, et voilà, et c'est fini. Ou au contraire, comme tentent de le faire nombre de féministes, ou par exemple John Tronto, tenter de penser le care sur le mode du travail, de réduire la relation de care à un travail fonctionnel, pour éliminer toute tentation de charité, etc., qui ferait basculer dans un registre, dans un régime antérieur. Non, il me semble qu'il faut penser le care, toujours dans une dimension de réciprocité, mais pas dans la dimension de réciprocité simple qui caractérisait le premier modèle de Mauss, mais une dimension de ce qu'on pourrait appeler une réciprocité généralisée, de la même manière que Lévi-Strauss distinguait entre l'échange simple des femmes, un clan A donne une femme à un clan B qui donne une femme au clan A, et l'échange généralisé, ou l'échange complexe, dans lequel c'est un clan A donne une femme à un clan B, qui donne une femme à un clan C, qui donne une femme à un clan D, qui lui donnera une femme au clan A. Il faut penser la relation de care comme l'inscription dans une relation de don généralisé, au-delà de la relation de don simple, de don et de contre-don simple. Mais par ailleurs, je disais tout à l'heure que on veut, les sujets humains désirent être reconnus à la fois comme des donateurs, comme ayant donné quelque chose, comme pouvant donner quelque chose, étant susceptibles de donner quelque chose, mais ils veulent également être reconnus comme participants de quelque chose qui excède le don interpersonnel, le don entre des sujets, comme participants de ce que je propose d'appeler le domaine de la donation. Alors, j'emploie ce terme pour traduire l'expression de la phénoménologie allemande, l'expression de Gegebenheit, le fait qu'il y a des choses qui sont données, données par personne, à personne en particulier, c'est cette dimension que essaie de développer des gens comme Derrida ou Marion, etc. La vie nous est donnée au bout du compte par personne, on ne sait pas par qui, la nature est donnée par personne, l'air que nous respirons est donné par personne, à personne en particulier, mais ça fonctionne comme un don. La nature nous est donnée, la vie nous sont données comme des dons impersonnels, mais dont nous bénéficions et que nous recevons sur le registre, dans le registre du don. Bien, voilà donc deux dimensions de pensée qui permettent de dépasser le modèle moussien strict, la prise en compte des relations de dons asymétriques, avec notamment l'embrayage sur les questions du care, et puis la question de la donation, avec la question de l'inscription de toutes les vies humaines dans le cosmos, dans quelque chose de beaucoup plus général. Et puis enfin, troisième complément à apporter, il faut, je crois, basculer aussi, envisager la manière de penser ce qu'on pourrait appeler une relation de don générale. J'ai en tête, mais de manière complètement idiote et prétentieuse, la théorie de la relativité générale, et pas seulement simple. L'idée, c'est la suivante, c'est que ce que Mauss nous permet de penser, en traitant le don comme un opérateur politique, il nous permet de penser la formation d'une communauté politique et le fonctionnement des relations au sein de cette communauté politique. Mais avec la globalisation, nous voyons bien qu'il nous faut penser quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est le rapport entre des communautés politiques. Non plus seulement la formation d'une communauté politique, mais la pluralité des communautés politiques. Et donc la pluralité des échelles de dons, de devoirs, de créances, etc. Et là, les choses deviennent assez vertigineuses et on touche à tous les problèmes dont on parlait avec Christian Grataloup tout à l'heure, tous les problèmes de l'histoire globale, de l'histoire connectée. À partir de quel point de vue entre-t-on dans cette histoire? Est-ce qu'il y a un point de vue privilégié à partir duquel penser l'histoire mondiale, ou est-ce qu'on est affronté à l'infinie pluralité des points de vue possibles sur l'histoire, auquel cas on risque fort de se perdre? Voilà toutes ces questions très compliquées de l'histoire globale. Bien, voici très brièvement présenté le paradigme du don tel que je pense qu'il devrait fonctionner, pour se connecter justement, entrer en relation avec tout un ensemble de discours théoriques. Et ceci m'amène à mon dernier point qui servira en partie de conclusion. Je ne voudrais surtout pas laisser croire que, en proposant un paradigme du don, il s'agit de se débarrasser de toutes les autres approches, des multiples approches théoriques existant en sociologie, en économie, en histoire, en philosophie, etc. Ce n'est pas une réponse à tout qui aurait été enfin trouvée. Et comme il m'arrive assez souvent de le dire, à mes yeux, l'intérêt du paradigme du don, ce n'est pas qu'il a réponse à tout, à la différence d'un certain nombre de théories existantes en sciences sociales, c'est qu'il permet de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, ça veut dire expliciter le rapport, justement, qu'entretient le paradigme du don avec tout un ensemble d'autres discours. Et il peut le faire puisque, je le disais en introduction, le don est un phénomène social total qui comprend à peu près tout. Le don, je le disais tout à l'heure, est un opérateur politique, est un opérateur du politique. Il nous faut penser le politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? Il faut donc penser le don à partir d'une pensée du politique, mais réciproquement, il faut penser le politique à partir d'une pensée du don, penser la manière dont une communauté politique se fabrique comme une intégrale, au sens mathématique, une intégrale des dons faits entre les contemporains, des dons à travers les générations, des dons de la tradition. Par ailleurs, le don, on le voit très bien chez Marcel Mauss, c'est de l'ordre du rituel. Le don est ritualisé. Voilà qui nous force à interroger ce qu'est un rituel. Si on commence à interroger ce qu'est un rituel, très très vite, on va s'interroger sur le religieux, qui est de l'ordre du rituel par excellence. Il faut donc penser le rituel et le religieux à partir du don, et symétriquement, penser le don à partir des théories du rituel et du religieux. Troisième idée enfin, le don est d'ordre strictement relationnel. Il est de l'ordre de l'interaction. Il est de l'ordre de l'interaction. Il est aussi de l'ordre des interdépendances. Et là, j'aurais en tête plutôt Elias. Il est de l'ordre de l'interdépendance, ce type d'interdépendance qu'a pensé notamment Norbert Elias, de l'action. J'ai du mal avec la traduction en français du mot de Simmel, Zwischenwirkung, souvent traduit par interaction, et je trouve la traduction faible par rapport au concept de Wirkung, quelque chose de plus fort que l'action. Je dirais c'est l'efficace croisée de l'ensemble des composantes de la totalité sociale. Bien, il faut donc penser le don comme une réfraction de la Zwischenwirkung, de l'efficace croisée, et symétriquement, voilà. Bien, on peut aussi penser le don dans son rapport avec le jeu, Éditeur Grand vient de, il y a un livre qui va sortir sur le jeu. Le dernier numéro du MOS porte sur le jeu, sur l'esprit du jeu. Il développe la thèse un petit peu étrange que de la similitude, de l'homologie profonde entre jeu et don. Thèse étrange, mais au fond, c'est ce que disait un des grands théoriciens du jeu, Huizinga, dans son Homo Ludens, qu'il présentait lui-même comme le prolongement de l'essai sur le don de Marcel Mauss. D'un certain point de vue, don et jeu, c'est la même chose. Voilà une proposition un peu étrange, mais qui mérite d'être pensée. Dans le cadre de ces analogies, on voit bien évidemment les rapports entre... Puis le don, j'allais oublier, et bien sûr d'ordre symbolique. Dans le don, ce qui compte, ce n'est pas seulement la chose donnée, c'est l'intention qui est manifestée par le don de la chose. Dans le don, comme on le disait avec mon ami Jacques Godbout, le lien importe plus que le bien, l'intention importe plus que l'utilité de la chose donnée. Donc le don a une valeur principalement symbolique. Et symétriquement, le symbolisme doit être pensé à partir du don. Ce qui transforme les signes en symboles, c'est le fait qu'ils connotent en quelque sorte, ou qu'ils performent tout un ensemble de dons qui ont été faits, qui pourraient être faits, etc. etc. C'est ça qui produit du sens. Et voilà donc tout un ensemble de traductions possibles. J'emploie encore un autre mot, le mot « traduction ». Il me semble que le paradigme du don est un paradigme de la traduction justement de tous ces discours les uns dans les autres, de la traduction des différentes subjectivités les unes dans les autres, et il me semble qu'un des défis de notre rencontre ici, c'est de savoir si nous serons capables de nous traduire les uns dans les autres, de traduire nos approches respectives, et de trouver en quelque sorte une métalangue commune, qu'on pourrait expliciter à partir de nos langues particulières spécifiques. Bien voilà en tout cas l'enjeu que je vois pour ma part dans cette rencontre. Il me semble que j'avais prévu un mot de conclusion intelligent, mais il m'est sorti de l'esprit, et donc je vais m'arrêter là.